J'ai dit quelques mots dans la rentrée du CIF samedi dernier. Et vous avez pour cela, bon, le PowerPoint, la conférence, enfin, les enseignements que je vais essayer de vous donner maintenant. Et vous avez aussi un dossier. Alors, vous avez un dossier, Parme, cette année, avec, quand vous ouvrez, une introduction qui est datée de l'année dernière, parce que j'ai rien changé et qu'on a oublié de changer la date. Voilà, c'est ma faute. Mais comme il n'y aurait eu que la date à changer, on peut garder celle de l'année dernière. Ensuite, une bibliographie. Alors, on va s'en servir. Hein. Une bibliographie dont on parlera. Et puis, le plan. Introduction à l'Ancien Testament, c'est le plan de la journée et aussi du matin du samedi 7 janvier, où nous continuerons, parce qu'on fera la jointure Ancien Testament, Nouveau Testament. La session du 7 janvier, elle est intitulée « De l'Ancien au Nouveau ». Donc on continuera, ce qu'on n'aura pas terminé aujourd'hui. Et ensuite, vous avez des documents dont je vais me servir. Certains, vous les regarderez, d'autres seront projetés. Et puis, il y a trois documents qui vont reprendre, au fond, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes, sauf si vraiment vous avez une question brûlante que vous voulez garder, quelque chose à poser un peu plus tard. Mais ces trois documents recouvrent, sous une forme un peu différente, tout ce que je vais raconter aujourd'hui. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas à gratter. En plus, c'est enregistré, et ce sera sur le site du CIF avec le PowerPoint. Donc vous retrouverez tout sur le site du CIF. Voilà. Enfin, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous m'arrêtez, et si je parle trop vite, vous m'arrêtez, vous levez la main, vous posez une question et vous serez toujours bienvenue. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous entendez bien au fond? Oui. Et est-ce que vous voyez? Voilà, alors on va démarrer. Alors, on démarre par une introduction, si vous voulez bien, je vais revenir sur l'échelle de Jacob. L'idée, c'est de vous donner des clés pour entrer dans ce pavé, cet énorme ensemble relié Ancien et Nouveau Testament. Quelques clés, parce que c'est quand même une forêt, un monde, une bibliothèque. Comment se repérer là-dedans et au fond, de quelle façon l'aborder. Donc, dans un premier temps, je rappelle en quelques mots ce que je vais développer ensuite. En quelques mots, c'est cette première ligne. La Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau aussi, ici surtout l'Ancien, c'est un peuple qui relit et raconte son histoire en rassemblant et en reprenant à quelques époques clés successives les documents du passé. Voilà, on va chercher les chansons de gestes, la littérature orale, les vieux poèmes, les plus récents, les romans, les annales des rois, les textes de loi. On rassemble, on recoue, on relit, voilà, à plusieurs reprises. Pourquoi ce peuple fait ça? Comme tous les peuples, il cherche à dire qui il est. Nous, on raconte l'histoire, Vercingétorix, Clovis, l'histoire de France commence-t-elle avec Clovis ou avec Ulcapé ou à la Révolution française? On peut se battre, voilà. Et c'est pareil dans la Bible, chacun va raconter son histoire. Donc, en quête d'une identité, comme tous les peuples anciens, en quête aussi de la divinité, du Dieu qui accompagne ce peuple. Un peuple a un Dieu, normalement, et un Dieu plus fort que les dieux des autres, parce que ça permet d'avoir la victoire. Et quand on est vaincu, on se pose des problèmes. Or, le principe même, c'est que dans cet ensemble, donc on va dire de quête d'identité, de quête de Dieu, d'œuvres littéraires, il y a une découverte qui est sans arrêt, en filigrane, et parfois tout à fait au contraire présente, c'est que le Dieu qu'on cherche était là avant nous. Et que c'est lui qui attendait le peuple. Et que c'est lui qui le précède. Et que c'est lui qui s'est embarqué dans l'histoire avec ce peuple par une promesse. Un événement dont on parlera, qui est devenu l'événement fondateur, si lointain et si flou soit-il. Un événement de libération d'esclavage, de salut. Et cet événement va déboucher sur une alliance entre Dieu et le peuple, une alliance avec ses clauses. Et les clauses de l'alliance, c'est Dieu qui s'engage définitivement dans sa fidélité à lui et le peuple qui doit devoir obéir à ses lois. Voilà. Ça, c'est le principe. On découvre un peu toujours, sous diverses façons, un Dieu déjà là. Et on dit souvent, non pas un homme en quête de Dieu, mais un Dieu en quête de l'homme. Voilà. Un Dieu à la recherche d'un partenaire, un homme, un peuple, l'humanité. Alors pour moi, tout ça se résume magnifiquement dans un des récits de la Genèse, l'histoire de Jacob. Vous savez que Jacob, qui est parti pour fuir son frère à qui quand même il a volé la place. C'est quand même un truand, Jacob. Il dort à Sichem, à Bethel, un sanctuaire, un lieu. Il s'endort la tête sur une pierre, il fait un rêve, une échelle monte de lui jusqu'au ciel, donc le ciel s'ouvre, ce qui veut dire que voilà, il va être en relation avec l'autre de l'humanité, le Dieu. Des anges montent et descendent, il y a une promesse, et quand Jacob se réveille, il dit « Le Seigneur était là, et je ne le savais pas ». Et cette affirmation que le Seigneur était là et que nous ne le savions pas, c'est vrai de toute entreprise biblique. Je dirais c'est vrai aussi de nos vies, et la Bible nous incite toujours à les relire en nous disant « Mais enfin, le Seigneur était là et nous ne le savions pas ». Voilà. Je pose ça comme un gros bloc, si vous voulez, parce que ça me paraît être l'essentiel. Alors après, je vais essayer un peu plus en détail, et puis on continuera dans toute la journée, de dire comment ça se monnaie, comment ça se passe. C'est donc une entreprise de relecture des textes et des traditions du passé. Ces traditions, elles sont souvent orales, elles sont souvent écrites, elles sont diverses parce qu'il y a des tribus, des groupes humains, il n'y a pas 12 tribus, hein, ça c'est une... Si, il y en a eu, mais enfin c'est une reconstruction quand même, a posteriori. Très anciennement, il n'y a pas 12 tribus, il y a des tribus, il y a des groupes qui ont chacun leur tradition, leur littérature déjà incoative. Et on rassemble tout ça, on essaye de recoudre, puisqu'on veut former un peuple et dire qui est ce peuple. Voilà. On veut former un peuple et on veut transmettre. Un des maîtres mots de la Bible, c'est la transmission. Et ça, ça se vit encore. Alors, nous aussi, chrétiens, on essaye de transmettre tant bien que mal. Mais ça se vit très très fort dans le judaïsme jusqu'aujourd'hui, puisque vous savez que lors de la fête de Pessah, de Pâques, la tradition veut qu'un enfant de la famille demande à ses parents « Pourquoi faisons-nous cela ? Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui ? Pourquoi ce pain azim ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ?» Et le père de famille, ou la mère éventuellement, doivent raconter l'histoire du passé. Et toute la Bible est ponctuée de ces phrases « Tu raconteras à tes fils, quand tu seras arrivé dans le pays où je t'aurai installé, tu raconteras à tes fils et ils transmettront à leurs fils. » Il faut transmettre. Transmettre, ce n'est pas nécessairement transmettre quelque chose de figé. C'est relire une fois de plus les documents du passé et se les approprier pour aujourd'hui. À un moment donné, ça s'est arrêté, on a fixé un canon. Mais l'idée reste quand même la même. Transmettre, c'est s'approprier, faire pour aujourd'hui. Alors, dans tous ces documents, dans cet ensemble, on dira tout à l'heure que c'est une bibliothèque, le livre que forme la Bible. Vous allez donc avoir une diversité de récits, d'histoires, de genres littéraires, et donc d'expériences. D'expériences de vie et d'expériences de Dieu. Ce n'est pas la même expérience de Dieu quand on est sorti d'esclavage, retour vers la terre, quand on est installé sous un roi, quand on est dans une guerre ou quand on est en période de paix, quand on écrit un roman ou quand on écrit des textes de loi. Donc, diversité d'expériences de cette divinité qu'on cherche mais dont on se dit toujours c'est elle qui nous attend. Du coup, dans la Bible, vous allez avoir des images de Dieu juxtaposées, pas nécessairement compatibles. Alors, me dites pas, souvent, je ne vous fais pas un procès d'intention, c'est pas vrai, mais souvent les chrétiens disent, oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est jaloux, il est violent, il est puni, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Pas du tout. Réponse, pas du tout. Le Dieu de l'Ancien Testament, il est déjà multiple, il a des facettes multiples. Et d'abord, il a des noms multiples. Et donc là, je m'arrête un peu longuement, la question du monothéisme, parce qu'elle va revenir, évidemment. Le monothéisme, un Dieu unique et il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est martelé, essentiellement, dans la Bible, dans le deuxième, ce qu'on appelle le deuxième Isaïe, la deuxième partie du livre d'Isaïe, les chapitres 40, 48, 40, lisez simplement 43 ou 45, vous verrez, je suis et moi, Dieu, et il n'y en a pas d'autre. À côté de moi, personne. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que l'affaire est réglée. Oui, mais on est tard. On est quand même au milieu, sinon vers la fin, du 6e siècle. 500, mettons, 550, 540, 530. Que s'est-il passé avant ? Que s'est-il passé avant ? Eh bien, on voit apparaître avant, et c'est fréquent dans la Bible, différents noms de Dieu. On voit apparaître différents noms de Dieu, je les cite et je vais y revenir. D'abord, celui qu'on ne nomme pas, qu'on ne nomme plus, qu'on représente sous la forme de quatre lettres. On l'appelle le tétragramme, YHWH. Anciennement, ça devait se prononcer quelque chose comme Yahou ou Yahoué. Voilà. On a arrêté de le prononcer, et à un moment donné, dans la Bible, qui ne l'écrit même plus. On n'écrit plus que des consonnes, et on ne peut plus le lire s'il n'y a que des consonnes. Si vous de prononcer ça sans voyelle, vous allez voir. Ça fait un drôle de truc. Bon, alors on a vocalisé, on a mis des voyelles, mais d'autres voyelles, et on ne lit pas. On ne lit pas Yahou ou Yahoué, on lit Adonai. Le Seigneur, par respect pour le nom de Dieu. Donc, chez les chrétiens, aujourd'hui aussi, dans les Bibles œcuméniques ou dans un bon nombre de Bibles, on n'écrit plus Yahvé, on écrit le Seigneur, dans la Tobe en petites lettres majuscules pour montrer que derrière il y a le tétragramme. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là ? Si vous ouvrez le livre de la Genèse, le premier récit de création, il n'y est pas. C'est un autre nom de Dieu, c'est Elohim qui créa le ciel et la terre. Donc il y en a un autre. Elohim, c'est un pluriel qui est devenu un singulier, le Dieu. Et c'est un mot, un pluriel, qui au fond est une suffixation, un allongement du mot « elle ». Et Dieu s'appelle souvent « elle » dans la Bible. Hein. « Toi, tu es mon Dieu », c'est souvent « elle ». Ce Dieu, elle, c'est un Dieu du ciel, un grand Dieu du ciel, très connu dans le pays au nord d'Israël, Ougarit, la Syrie, un peu le maître des dieux, celui qui est englobant. Au contraire, le Dieu, le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Israël, est un Dieu tribal, qu'on connaît de façon très ancienne. La première attestation, je vous montrerai la stèle tout à l'heure, je ne vais pas dérouler tout le diaporama, elle y est. C'est dans la stèle dite de Mécha, qui est au musée du Louvre, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Bon, vous verrez un gros bloc de pierre avec 34 lignes que vous ne comprendrez pas. Voilà, je peux vous les montrer quand même. Ça. Hop, là, voilà. Voilà. Bon, mais c'est très intéressant, parce que cette stèle, elle remonte probablement à quelque chose comme 840, avant Jésus-Christ. Donc ça fait un moment, hein. Eh bien, sur cette stèle, il y a le tétragramme. Et il y a le tétragramme comme étant le dieu de ce peuple qu'on a vaincu, bien sûr, parce que quand on fait une stèle, il s'agit des gens de Moab, quand on fait une stèle, c'est pour dire qu'on est vainqueur. Voilà. Mais enfin, c'est leur dieu. Et c'est un dieu qui, visiblement, et on le voit dans la Bible, est un dieu qui vient des régions du sud. Il y avait, s'avance le Seigneur, s'avance de Séir, il vient des montagnes du sud. C'est d'abord un dieu de l'orage, et puis c'est un dieu tribal et un peu un dieu de la guerre. Le Seigneur des armées, on a dit après que c'était les armées du ciel. Hein. Le Seigneur Sabaoth, c'est d'abord le Seigneur de la guerre. Mais oui, le Seigneur d'une tribu, c'est celui qui le mène à la victoire. Or, c'est ce Dieu qui, assez vite, a été le Dieu reconnu comme tutélaire, le Dieu qui nous attendait, des différentes tribus qui se sont reconnues sous le nom d'Israël, même si elles se sont ensuite divisées, on verra ça. Voilà, ça a été dans Dieu. Et ce Dieu a progressivement, mais aussi, alors on n'en voit que des traces dans la Bible, parce que quand la Bible est remise à jour et écrite au VIe siècle, on ne croit plus qu'en un Dieu unique, qui est le maître de tous les, qui a supprimé tous les autres, à côté de moi, néant. Voilà. Les autres dieux, néant, à côté du Seigneur. Donc il n'y en a plus. Mais ce Dieu a donc progressivement mangé, s'est aggloméré, un certain nombre de dieux de tribus, que vous retrouverez dans la Bible sous le nom de la terreur d'Isaac, le fort de Jacob. Vous savez, Jacob, il va être appelé Israël. Hein ? Dieu est fort, ou fort avec Dieu, ou fort contre Dieu. Mais dans le mot Israël, il y a le nom « El » de Dieu, qui est devenu un autre nom de ce tétragramme, de ce Seigneur, hein, qui est le Dieu d'Israël. Donc finalement, il a deux noms, ou même trois noms, dans la Bible. Le tétragramme, qui est son nom principal, mais aussi « El », qui est le grand Dieu du ciel, et qui est devenu aussi l'unique, voilà. Et puis Elohim, là, c'est le mot le plus courant pour dire la divinité. Il y a des Elohim, et il est un Dieu, quand il y en a d'autres. c'est un peu compliqué, mais c'est pour fixer les idées et que vous voyez cette diversité qui affecte même le nom et les représentations de Dieu dans la Bible. Voilà. Et qui, en même temps, est relu sous la forme de, eh bien, celui que, qui était notre Dieu depuis toujours, en fait, c'est l'unique. Et c'est le Dieu de l'univers, et c'est lui qui a créé la terre, etc. À partir du VIe siècle, le monothéisme s'impose. Ou en tout cas, il va s'imposer progressivement. Ça va, ça? C'est pas trop compliqué? Mais vous voyez, vous allez rencontrer une diversité de noms qu'il faut accepter. Les traductions ne sont pas toutes précises. Des fois, elles englobent un peu tout, mais enfin, la top est précise. On voit bien divers noms de Dieu et diverses figures de Dieu. Parce qu'il y a ce Dieu de l'orage, vous savez, celui qui arrive l'aile des vents. Il vole sur l'aile des vents, il décoche des éclairs, le tonnerre tonne, voilà, c'est le Dieu de l'orage. Il y a un Dieu qui est un Dieu jaloux de son peuple, par amour, mais jaloux quand même. Il y a un Dieu qui est un Dieu vengeur, mais il y a aussi un Dieu qui est un Dieu maternel, paternel, un Dieu qui écrit le nom de son peuple et de ses enfants sur la paume de ses mains. Un Dieu qui accouche de son peuple, il le dit. Ah, je n'arrive pas à vous rendre fidèle, je suis dans les douleurs de l'enfantement. Isaïe 42, c'est quand même étonnant ça. Un Dieu amoureux, profondément amoureux, et probablement la plus belle image d'un Dieu qui aime son peuple ou les hommes se trouve dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, au début du livre, dans les chapitres 2-3, un texte qui peut remonter, on considère qu'il remonte au prophète Osée, qui est un prophète du 8e siècle, 750. Donc ce n'est pas le Nouveau Testament qui a inventé le Dieu qui aime les hommes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette pluralité d'expériences de Dieu. Pourquoi ? Bien parce que suivant les époques de notre vie, suivant la diversité des groupes, suivant les moments, l'histoire et les expériences qu'on fait, on a une vision de Dieu tout à fait différente. Et la Bible a consigné tout ça sans l'effacer, ou en tout cas, en l'unifiant que grossièrement. Il y a des périodes de la vie où on est en révolte contre Dieu et où on a envie de crier avec Job, mais enfin pourquoi ? Moi j'ai rien fait, pourquoi il me tombe tout ça sur la tête ? Voilà, être en révolte contre Dieu, et c'est juste. Et la Bible dit c'est juste. Et donc elle introduit le livre de Job qui est le refus de toute vision d'un Dieu qui récompense des gens qui agissent bien et qui punit les autres. Non, les autres aussi ont des malheurs. Le malheur n'est pas un signe du châtiment de Dieu et du fait qu'il vous a abandonné. Non. Voilà, le livre de Job dit ça. Non. Donc voilà, il y a attesté ces différences dans la vision de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, ben, nous ne pouvons jamais qu'en avoir une représentation et un discours lié à notre époque. On est évidemment, bien sûr, très marqué par notre époque, à notre milieu, à notre enracinement géographique. Les chrétiens d'Afrique n'ont pas la même conception de Dieu que nous, ni ceux d'Asie souvent. Non, voilà. Et parce qu'au fond, en réalité, de Dieu, on ne peut jamais tout dire. Si vous avez l'impression que vous avez tout compris, ben vous êtes sûr que vous vous trompez. Et c'est ça que la Bible nous enseigne. Celui qui aurait fait le tour de Dieu, qui aurait tout compris. Et c'est une mise en garde pour la théologie. Elle ne peut jamais être qu'une proposition de plus, hein, qui peut être admirable, et il y a des théologies admirables, qui vont très loin dans la connaissance de Dieu, mais c'est quand même une parmi d'autres, et elle est toujours datée à une époque donnée, et ça, la Bible nous le dit très fort. On ne pourra jamais tout connaître de Dieu, mais ce qu'elle nous dit, surtout, c'est que ce Dieu est engagé. Alors ça c'est tout le long, engagé dans l'histoire et l'aventure humaine. Et le Dieu que la Bible refuse, ça très clairement, parce qu'il y a des représentations de Dieu qu'on ne va pas du tout assimiler, mais qu'on va refuser, c'est le Dieu qui est le Dieu des épicuriens, hein, qui est dans son petit nuage là-haut ou ailleurs, dans le monde des dieux, et qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe sur la terre, qui vit sa vie. Et puis il y aura aussi un grand nombre de représentations de Dieu que la Bible va contester et refuser. Donc elle va à la fois accepter une diversité et baliser un chemin. Et c'est dans ce chemin qu'elle nous aide à avancer et chacun à avancer dans notre propre compréhension de Dieu. Voilà, ceci pour dire, au fond, une espèce de petite définition, je ne sais pas si c'est une définition, disons, je propose de voir que la Bible, ce sont des paroles et des œuvres d'hommes, donc limitées, inspiré, bien sûr, parce que l'esprit, Dieu nous attendait, donc son esprit va inspirer chaque être humain pour qu'il se mette en quête de Dieu. C'est très bien dit dans les Actes des Apôtres, dans le discours de Paul aux païens d'Iconium. Dieu a mis au cœur de chaque homme le désir de avancer vers lui, de le toucher, de le connaître. Voilà. Donc c'est des histoires d'hommes qu'on va appeler inspirées, mais c'est à travers ces histoires d'hommes que va résonner au fond cette parole de Dieu que Dieu au fond adresse à l'homme, parce que Dieu est à la recherche de l'humanité. Et ce que je dis là n'est pas seulement vrai pour l'Ancien Testament. J'anticipe sur ce que nous verrons en janvier, c'est totalement vrai aussi pour le Nouveau Testament. Alors, en bon chrétien, on pourrait dire, mais enfin, on nous a appris, et on va nous répéter, que Dieu, c'est de façon décisive, et peut-être définitive, révélé dans son Fils Jésus de Nazareth, Jésus, Christ et Seigneur des chrétiens. La formule est juste. Dieu s'est révélé de façon décisive et définitive. Je crois que la théologie ne me contredira pas si je dis que la formule est juste. Oui, la formule est juste. Mais vous, nous, les hommes, les successeurs, qu'est-ce que nous en avons perçu et compris de ce Jésus qui nous révèle Dieu ? De la même façon, nous en percevons toujours. Déjà, le Nouveau Testament lui-même vous met en garde. Il n'y a pas un évangile. On le dira, il y a eu des essais, ça a été refusé. Quand on vous vend une vie de Jésus, quand vous lisez une vie de Jésus, c'est très sympa, hein, pouvez-vous dire que c'est intéressant, mais que c'est en grande partie du roman, nécessairement. Voilà, en grande partie. Parce que quatre évangiles, quatre témoignages différents, parfois compatibles, parfois incompatibles, il y a des choses qu'on ne peut pas harmoniser, des lettres, des actes, une apocalypse, des visions différentes pour dire, au fond, quelque chose de ce Jésus de Nazareth. Qui est-il celui-là ? D'ailleurs, au cœur des évangiles, il renvoie la question à ses disciples et aux lecteurs, évidemment. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Donc, à nouveau, c'est un effort, et vous le ferez au deuxième trimestre, pour se mettre en marche vers une connaissance un peu plus juste, un peu meilleure, un peu plus adapté à chacun de ce Jésus qui nous révèle, au fond, qui est dite par les chrétiens, la parole même de Dieu, donc qui nous révèle quelque chose de Dieu. Voilà, voilà une première mise sur la table. Est-ce que vous avez des questions, d'abord, sur ce que je viens de dire, qui est évidemment très général, mais qui veut être la clé, vous voyez, l'angle sous lequel je veux présenter la Bible. Ça va, vous survivez ? Bon. Alors je vous propose un petit exercice, parce que évidemment lire la Bible c'est compliqué et il va toujours falloir la lire avec non seulement tout ce que je viens de vous raconter, mais un peu des introductions d'abord, on va le dire, des contextes, quand ça a été écrit, qu'est-ce que c'est, et puis il y a diverses façons, on en reparlera aussi, de lire la Bible. Je voudrais vous montrer sur un exemple que on peut lire la Bible à plusieurs niveaux et que on peut, toujours avec prudence, mais entendre dans la Bible résonner une parole qui nous atteint peut-être aujourd'hui dans une situation particulière. Voilà. Donc je vous propose un petit texte que vous connaissez peut-être, en tout cas il a été très utilisé dans la catéchèse et donc au catéchisme dans le passé, donc certains en ont peut-être un souvenir de leurs enfants, de leur enfance. Si vous ne le connaissez pas, je le situe. Ça se trouve, alors vous l'avez hein, ce texte, vous l'avez accroché à votre introduction normalement, au dos, deuxième page au dos, voilà, vous l'avez et il est là, si vous ne le voyez pas bien, c'est petit. Alors, on est au début du premier livre de Samuel, c'est-à-dire que vous avez passé les cinq premiers livres de la Bible. On l'appelle, alors on le redira, la Torah ou le Pentateuque, que j'en parlerai. Donc on a passé la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres, le Deutéronome, et puis ensuite on a passé deux livres qui racontent sous des formes très, des formes littéraires très différentes, les tout débuts de l'installation d'Israël dans la terre, le livre de Josué et des juges, et ensuite on entre dans un gros bloc qui se veut pseudo-historique. En tout cas, pour les juifs, ce sont des livres prophétiques et pas des livres historiques. Ils ne sont pas fous, ils savent bien que ça ne raconte pas l'histoire comme on devrait raconter l'histoire. Ça dit quelque chose de Dieu dans notre histoire. Donc quatre livres, gros bloc, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, qui suit le déroulé de l'histoire ou le déroulé des siècles, depuis David, même avant David, donc vers l'an 1000, jusqu'à la fin du royaume d'Israël, l'an 600. En gros, donc 4 siècles. Et le début de Samuel se passe dans une période antérieure à David, il n'y a pas encore de roi en Israël, il y a des juges, il n'y a pas donc évidemment de culte unifié et probablement des syncrétismes divers, des mélanges divers entre le Dieu d'Israël qui est en train d'apparaître, que certaines tribus gardent déjà, et puis des divinités locales, et surtout toujours la tentation de se vouer aux divinités de la nature, parce qu'on est un peuple de paysans quand même, qu'il faut qu'il pleuve pour que la terre donne du fruit. Donc mélange, et il y a des sanctuaires un peu partout, avec à la tête du sanctuaire un prêtre et sa famille, c'est généralement des généalogies, le prêtre et ses descendants, qui gèrent plus ou moins bien les choses. Et donc certains sont des gens de bien, qui effectivement essayent d'honorer la prière, les vœux de ceux qui viennent, d'accompagner la petite population qui les entoure dans la foi, la divinité, et il y en a d'autres qui sont évidemment des truands qui pillent et qui volent les gens. Ces récits qui racontent ça sont repris beaucoup plus tard, on n'a pas encore de roi, lorsque on va mettre dans un grand récit tous les documents, toutes les histoires orales, tout ce qu'on a, pour raconter la royauté. Donc c'est raconté certainement au moins 3 ou 4, sinon 5 siècles après. Et c'est raconté au moment où les rois, alors il y en a eu plusieurs, ont essayé d'unifier autour de la capitale du royaume du Sud, Jérusalem, la religion, l'ensemble des traditions des différents groupes israélites. Unifier, avoir un sanctuaire unique, d'abord un dieu qui va être le dieu unique, Yahvé, elle, d'Israël, et puis unifier le culte et l'ensemble de la foi et des manifestations religieuses du peuple autour du temple de Jérusalem. Et donc on va fermer les sanctuaires locaux dispersés un peu partout dans le pays en montrant qu'ils sont beaucoup trop éloignés de cette foi qu'on veut purifier, de ce mode de vie qu'on veut purifier, de ceux qui croient au Dieu unique, au Dieu d'Israël. Donc on va fermer des sanctuaires comme le sanctuaire de Silo. Et on va raconter cette histoire sur le sanctuaire de Silo où va apparaître un jeune homme, Samuel, qui va être envoyé par Dieu pour oindre le premier roi, Saül, ça ne marchera pas, et ensuite celui qui va être l'ancêtre des rois d'Israël, David. Donc on est dans le passage vers la royauté, on raconte ce passage à la royauté. Et on va montrer qu'il faut que quelque chose de nouveau naisse, évidemment l'institution royale, mais qu'aussi du point de vue religieux, qu'on ferme, qu'on abandonne tout ce qui était ces pratiques trop diffuses dans le pays avec des tentations diverses de mélange avec d'autres dieux étrangers et les dieux de la nature. Donc on va raconter comment Samuel va apparaître au moment où doit disparaître le sanctuaire de Silo. Ça va, vous voyez le contexte ? Alors, je vous lis le récit, c'est 1 Samuel 3, il est connu, et ensuite je fais quelques petites remarques. Le jeune Samuel servait, ou le petit Samuel, mais on a beaucoup utilisé ce texte en catéchisme, et on a fait de Samuel un enfant du temps, non, c'est un jeune homme qui était préposé au sanctuaire, bon, pour des raisons diverses, sa mère l'avait demandé au sanctuaire, et stérile, avait pu enfin avoir un fils. Le jeune Samuel servait le Seigneur en présence d'Élie, attention, Élie, E-L-I, le prêtre de Silo dont on n'entendra plus parler, ce n'est pas le prophète. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas chose courante. Voilà, le Seigneur est un peu loin. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte. Vous voyez l'atmosphère de fin de règne quand même. Bon, j'ai oublié de vous dire que les fils d'Élie sont des voyous qui sont en train de prendre la main sur le sanctuaire, de voler la viande à ceux qui l'amènent pour des offrandes à la divinité, et de violer, non pas seulement de voler la viande, mais de violer les filles qui viennent aussi. Voilà, donc en fait, qui ont mis la main sur le sanctuaire et qui l'exploitent à leur profit. Et Élie ne fait pas grand-chose pour les reprendre. Et donc cette atmosphère, les yeux qui commencent à faiblir, il ne pouvait plus voir, la lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Et il se rendit en courant près d'Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé ». Celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé ». Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur, donc ça c'est le tétragramme, ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé ». Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Retourne te coucher, et si t'appelles, tu lui diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Alors, je ne vais pas faire une analyse détaillée de ce texte. Vous voyez qu'il y a un fond de compte avec la reprise trois fois de l'appel, hein, qu'on va retrouver jusque dans les évangiles. Les trois épreuves que le diable tend à Jésus, trois fois la prière de Gethsémani, il y a un fond de récit oral, ça fonctionne comme ça. Et on reprend ça. Vous voyez aussi qu'on sait bien décrire, qu'on sait bien utiliser la symbolique d'un lieu et de la lumière. Tout est en train de se fermer. Avec cette Élie qui ne sait pas élever et gérer ses fils qui pillent et dénaturent le sanctuaire. On en fait souvent, et ça joue, c'est là, une vocation du jeune Samuel avec l'appel de Dieu et la troisième fois l'appel plus fort qui va être le détonateur, Samuel, Samuel, et la réponse de Samuel qui dès le début est prêt à écouter mais ne sait pas qui. Moi, j'insiste surtout sur l'attitude du prêtre Élie. Le vieux prêtre, dont il est dit ailleurs qu'il sait que c'en est fini de son autorité et même de sa présence au sanctuaire. Ses fils ont dévoyé, dénaturé le sanctuaire. Il n'a pas su les remettre dans la ligne droite. Sa descendance, finalement, sa dynastie sacerdotale se termine. Voilà. Il va disparaître. Et avec lui, le sanctuaire de Silo, c'est d'ailleurs écrit à une époque où on décide de fermer tous ces sanctuaires. En même temps, si on y réfléchit bien, si on regarde bien le texte, qui est-ce qui met Samuel en route? Qui est-ce qui dirige Samuel vers la nouveauté qui va naître et au fond, le Seigneur qui l'appelle? Eh bien, c'est le vieux prêtre Élie. C'est-à-dire, pour moi, c'est une belle parabole du passage d'une institution ou d'une civilisation ou d'une culture ou d'une façon de penser ou d'une mentalité ancienne à une nouvelle, où au fond, tandis que la nouvelle tâtonne et ne sait pas dans quel sens se diriger, c'est peut-être quelques-uns au cœur de l'ancienne institution, de ceux qui acceptent de disparaître, qui vont orienter dans le bon sens la nouveauté qui germe et qui naît. Voilà. Je trouve que c'est quand même une belle parabole pour diverses époques et peut-être pour un renouveau de l'Église aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je l'entends comme ça, mais évidemment, à chaque époque, on peut entendre ce texte de diverses façons. Alors, vous voyez, on peut lire ce texte à la fois comme une jolie histoire du passé. On peut essayer d'y retrouver des traces historiques, et on les retrouve. Le sanctuaire de Silo a été un sanctuaire important, drainant de la population, avec des sacrifices, un prêtre, certainement plusieurs générations de prêtres qui y ont fait fortune. Voilà. On y trouve aussi, historiquement, le moment où on décide d'arrêter, de fermer ce genre de sanctuaire pour autre chose, et ça va être, on le saura plus tard, la recentralisation du culte à Jérusalem. Et on peut aussi le lire, parce que c'est une affaire finalement très humaine, et qui, sous une forme ou sous une autre, peut se reproduire, comme une suggestion, quelque chose qui nous aide à réfléchir sur nos propres difficultés, nos propres nécessités de passer à de l'ancien à du nouveau. Voilà. Voilà un petit peu comment je propose d'aborder les textes bibliques, de les lire. Ça suppose évidemment un appareil critique, un peu une connaissance de l'histoire, de la façon dont ça a été rédigé, écrit. Ça fait évidemment lourd. Mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des introductions, il y a des petits livres. Voilà. Et puis, un peu muni de tout ça déjà, on peut essayer de le faire résonner à une époque donnée, sans jamais en tirer une application directe. La Bible, les auteurs bibliques avaient leurs problèmes, ils ne connaissaient pas les nôtres. Donc il n'y a jamais de parole qui s'applique aujourd'hui, il n'y a jamais à faire une lecture littéraliste ou fondamentaliste de la Bible. Voilà, ça c'est clair. Vous voulez dire quelque chose? Oui.
Il est question du temps où se trouve l'Arche d'Alliance. Alors on est à Jérusalem ou on est à Silo?
Alors, on est à Silo. Mais le mot employé pour le sanctuaire est le temple. Parce qu'il y a un mélange. Des gens avaient compris que c'était un premier temple. Le mot temple, Eral en hébreu, est un mot assez large qui va désigner le temple de Jérusalem, mais qui dit aussi simplement n'importe quel sanctuaire. Donc la traduction aurait peut-être été plus prudente de dire le sanctuaire. Mais on voit à quel point c'est écrit à une époque beaucoup plus tardive où le temple existe et où tous ces petits sanctuaires peuvent être appelés des temples. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais il parle aussi de l'Arche d'Alliance.
Alors, l'Arche d'Alliance, c'est complètement autre chose. Elle n'est pas dans le temple de Jérusalem, l'Arche de l'Alliance. Hein. Elle a disparu depuis longtemps. L'Arche d'Alliance, c'est quelque chose d'étrange, un objet étrange. Pas un ovni, mais c'est un objet étrange qu'on voit apparaître dans les livres de Samuel. On voit apparaître dans les livres de Samuel comme un coffre qui, quelque part, représente la présence et l'aide de la divinité. Et c'est tout de suite mis en question, parce que les Philistins, qui sont l'ennemi numéro un, c'est les peuples de la mer qui descendent et qui font des razzias sur toutes les petites tribus. Donc l'ennemi numéro un, ça va être pendant longtemps les Philistins. Les Philistins s'en emparent. Et donc, on l'a perdu. Et donc, c'est les Philistins qui vont vaincre avec ça. Ils sont bien contents. Eux, ils sont persuadés qu'ils vont venir vainqueurs. En fait, ça ne marche pas bien. L'Arche d'Alliance ne leur apporte pas la victoire. D'ailleurs, elle n'avait pas apporté non plus toujours la victoire aux fils d'Israël, puisqu'on leur avait pris. Enfin, ça ne marche pas bien. Il y a des doutes là autour. Et ils finissent par la rendre. Ça sera David, nettement plus tard, qui va, dans une célébration, là aussi réécrite longtemps après, à la plus grande gloire du culte de Jérusalem, faire une grande cérémonie où il va ramener l'arche de l'endroit où les Philistins l'avaient rendue à Jérusalem, dans une belle procession, et où il va danser nu devant l'arche pour exalter, louer le Seigneur et montrer que lui, l'homme, n'est qu'un ver, mais qu'il danse devant le Seigneur, ça le brouillera à jamais avec sa femme qui ne supporte pas ça. Voilà. Donc il y a cette idée que finalement l'arche c'est quand même la présence du Seigneur, ça vient de très loin et que c'est David qui l'a installé dans le temple de Jérusalem. Bon, temple qui a été détruit de toute façon et l'arche avait probablement disparu depuis longtemps. Mais il restera l'idée de la présence du Seigneur dans le temple sur l'arche d'alliance. Alors est-il resté quelques siècles peut-être? Et il y a dessus le couvercle de l'arche qui s'appelle le propitiatoire, le caporet. Et c'est sur le couvercle de l'arche que le Seigneur vient. Pour qui? Pour pardonner les péchés de son peuple repentant. Mais ça reste à l'intérieur du Saint des Saints. Personne n'y entre que le grand prêtre, après moult purification, une fois par an pour Kippour, et l'arche se fond ensuite dans la disparition du temple et du pays. Ça va? Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Oui?
J'ai pas compris, vous avez qui Samuel?
Vous n'avez pas compris? Qui c'est Samuel? Eh bien, moi non plus. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Carte de visite de Samuel. Tout ce que je sais de plus de Samuel, quand on en est à ce point de la Bible, hein, après il faut lire la suite. Alors, à ce niveau-là, Samuel est l'enfant qu'une femme pieuse, très religieuse, Anne, a attendu, après avoir été longtemps stérile, de son mari Pénina, qui l'aime énormément, mais d'autres femmes de ce même mari, parce qu'on avait plusieurs, ont des enfants, et Anne est malheureuse et jalouse. Son mari la console en lui disant « Mais je vaux mieux pour toi que 10 fils ». N'empêche qu'elle finit par aller voir au temple Élie et promettre au Seigneur que si elle a un fils, elle le consacrera au service du sanctuaire. Évidemment, Anne attend un fils, et c'est ce fils, le jeune Samuel, qui naît, et qui va être, alors vous savez, le magnifique cantique d'Anne, qui est l'ancêtre du Magnificat, quand elle bénit le Seigneur au chapitre. Lisez les trois premiers chapitres de Samuel, c'est un roman, hein, ça se lit très très bien, avec une superbe louange au Seigneur. Donc elle va le confier à Élie pour qu'il le serve au sanctuaire, et Samuel va donc grandir comme un serviteur du sanctuaire. Et on voit dans ce texte qu'Élie comprend de mieux en mieux l'importance de Samuel, puisqu'il lui dit « mon fils » à un moment. On voit qu'il prend la place des fils d'Élie, qui sont dévoyés. Alors, plus tard, on verra que Samuel est donc quelqu'un que le Seigneur appelle. Voilà, j'en sais pas plus que vous. Jeune homme tout à fait dévoué, prêt à obéir au sanctuaire, il répond, le Seigneur l'appelle, et le Seigneur lui dit « tu seras mon prophète pour, eh bien, faire une espèce de réforme religieuse dans ce peuple, purifier, aider le peuple à grandir dans la foi au Seigneur. Et surtout, le Seigneur va l'envoyer pour trouver un roi. Alors le Seigneur va d'abord l'envoyer pour trouver le roi Saül. Ça ne va pas marcher. Saül et son fils mourront. Et Samuel oindra David. Et donc Samuel est celui qui, au fond, fait passer le pays d'un régime de petits groupes menés de temps en temps par des juges guerriers. Samuel a pu être aussi un chef de groupe, un juge, on ne sait pas bien. Il fait passer le pays de cet état-là à l'idée d'un roi qui va rassembler autour d'une capitale que David va prendre, qui sera Jérusalem. Voilà. Donc au fond, c'est le passeur d'un monde à un autre, le passeur d'une forme politique tout à fait dispersée, diffuse, à ce qui va devenir une véritable dynastie royale. Et puis il disparaît, Samuel. Une fois que David est nommé, il meurt. Voilà. Après, vous lisez l'histoire, mais on n'en sait pas plus. Hein. On n'en sait pas plus. Les personnages bibliques, ils ont un petit récit, puis ils disparaissent. Ils ont été au service de quelque chose, qui est en fait voulu par Dieu. Enfin, au service de Dieu pour quelque chose, une vocation. Ça va? Autre chose? Alors, il nous reste avant la pause la possibilité, et il le faut, d'entrer dans du plus concret. Le plus concret, vous allez alors le trouver. C'est pas la peine de l'ouvrir maintenant, mais vous retrouverez tout ça dans le troisième document, après la bibliographie. Vous allez avoir Introduction à l'Ancien Testament. Et c'est ce document-là qui va être le fil conducteur de la journée et du début de la matinée du 7 janvier. Voilà. Vous avez l'essentiel de ce que je vais dire et vous retrouverez plus de détails dans les documents suivants. Donc, ça c'est un document plutôt qui donne le plan, hein, les grandes idées. Voilà, je vais le suivre évidemment. Et puis, le détail, vous le trouverez en lisant les documents suivants, mais moi aussi je vais vous le raconter. Et puis vous pouvez déjà sortir quelques cartes. Vous voyez, vous avez deux cartes qui ne sont pas très belles et quelques textes. Je vais vous les montrer sur l'écran. La première chose, j'ai dit que c'était un peuple. Un peuple qui a été un peuple nomade, longtemps. un peuple qui a été en esclavage, en exil, etc. Mais quand même un peuple qui a vécu sur une terre pendant un bon nombre de siècles. Au moins 2000 à, pour une partie, 700, pour une autre partie, 2000 à 600, et puis à nouveau 2, 500 jusqu'à l'époque de Jésus, l'époque romaine, et jusqu'à la chute, la destruction de Jérusalem en 135 après Jésus-Christ. Donc il y a bien eu une installation très forte d'un peuple sur une terre. Donc il faut regarder cette terre. Je ne vais pas vous raconter Israël, vous avez déjà voyagé, vous voyagerez, vous irez. Je vais le situer, au fond, là où il est par rapport au monde environnant. Pour montrer, au fond, que d'une certaine façon, la localisation de la terre joue beaucoup sur les événements qui affectent un peuple et sur sa destinée. Alors, je prends une carte que je trouve très bien faite, qui est dans le... pour lire l'Ancien Testament, ancienne version, parce qu'il y a eu une nouvelle version depuis, où la carte est reprise, elle est plus jolie, mais elle est beaucoup moins claire. Donc je me suis rapportée à l'ancienne carte. Et ça raconte un peu l'histoire que vous pouvez lire autrement si vous lisez l'Odyssée d'Obélix. Ou d'Astérix, je ne sais plus. D'Astérix, non d'Obélix. J'en sais rien. En tout cas, ça raconte l'Odyssée d'Astérix et d'Obélix, qui reviennent d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'on a un peuple qui a été sans arrêt à la jonction des grands lieux de civilisation anciens, antiques, les plus anciens. Les grands lieux de civilisation les plus anciens, vous les connaissez, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Égypte au sud, avec les pharaons, ça commence au moins en 3000 avant Jésus-Christ. Et au nord, ce qu'on appelle la Syrie, la Mésopotamie, plutôt, entre les fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, un gros bloc avec plusieurs entités, hein, qui n'est pas tout à fait unifié, la Mésopotamie, avec très anciennement les royaumes ou les pays de Sumer, où ont été probablement inventées les plus anciennes écritures, peut-être même avant l'Égypte, 4e millénaire peut-être. Donc des blocs de civilisation extrêmement importants. Dans le nord, on a une succession de peuples, les Assyriens, les Babyloniens à tour de rôle, plus au nord les Hittites, mais tout ça c'est des grosses civilisations. Or, la tentation des uns et des autres, lorsqu'on a envie d'agrandir un peu ou de faciliter les voies de commerce ou d'aller plus loin, c'est évidemment de se présenter avec une armée ou avec une armée de commerçants chez les autres. Or, pour passer de l'un à l'autre, vous avez le désert d'Arabie. Le désert d'Arabie, il y a des gens qui s'y promènent, mais enfin peu, des caravanes, c'est pas très marrant, mais c'est dangereux. Donc la seule possibilité, c'est le long de la côte. Or, Israël, c'est justement la zone côtière. Donc Israël va être sans arrêt à la jonction entre les ambitions militaires ou économiques des peuples du sud, l'Égypte, et des peuples du nord, les Mésopotamiens, Assyriens, Babyloniens, qui vont venir se battre où ? Eh bien évidemment en Israël, qui vont en tout cas essayer d'arraisonner ce petit bout de pays parce que ça leur fait une tête de pont militaire ou économique, enfin on connaît ça aujourd'hui, hein, beaucoup plus proche pour tenir en respect le pays du sud ou au contraire le pays du nord. Ça marche ? D'où un peuple sans arrêt, sous l'oppression, ou en tout cas sous le danger, sous le risque d'un envahissement, et un peuple qui, en réalité, même lorsqu'il se déclare libre, va être obligé de payer tribut à soit ceux du sud, soit ceux du nord. Ils vont passer leur temps, en fait, à ne pas être vraiment envahis, mais à payer des taxes, et à payer un lourd tribut à ces peuples du nord, qui, une fois qu'on paye l'impôt très cher, bon, ben, ils se tiennent tranquilles pendant un moment, ou du sud. Alors, le premier... Et le souvenir le plus ancien de ces tribus d'Israël, ou de quelques tribus d'Israël, c'est un moment très ancien où un certain nombre de ces Sémites, ce n'étaient pas encore des Israélites, si peut-être déjà quand même, puisqu'on trouve le nom d'Israël sur une stèle très ancienne, au XIIIe, XIIe siècle, en Égypte, donc où certains de ces groupes ont servi comme esclaves dans l'Égypte des pharaons. Alors, vous allez me dire lesquels ? Eh bien, on n'en sait rien, évidemment. on se bat pour savoir, c'était 17e siècle, 13e siècle. Bon. L'idée, c'est qu'au fond, il y a toujours eu, dans l'Égypte des pharaons, des esclaves. Parce que les pyramides, les tombeaux des rois, ça ne s'est pas construit avec des grues et avec des machines modernes. Ça s'est construit en faisant rouler les blocs sur des rondins de pierre et avec des esclaves qui mouraient à la pelle. Hein, voilà. Et donc, il fallait sans arrêt renouveler des gens pour construire ces choses. Et donc, il y avait certainement des esclaves sémites. Or, le plus ancien souvenir, c'est la fuite d'un certain nombre de ces gens qui sont ensuite ont erré dans le désert et ont fini par entrer dans la terre que, disent-ils, Dieu leur avait promis. Voilà. Et ces gens sont détonnants déjà, s'appellent déjà Israël, en tout cas il y a un des pharaons qui dit qu'il a battu Israël, et ils vont de plus en plus être l'étonnant de ce Dieu Yahvé qui est un Dieu du sud, du pays. Voilà.
Donc, avec Moïse.
Avec Moïse, on reparlera de Moïse. Hein. Mais le souvenir ancien c'est ça. Donc au fond, le pays qui d'abord fait peur, c'est l'Égypte. En tout cas, c'est le pays qui a permis la constitution des peuples. D'Égypte, j'ai ramené mon fils. En fait, l'Égypte ne va pas être très encombrante dans l'histoire d'Israël. L'Égypte, elle demande qu'on lui paye tribut. Elle envahit à peu près jamais, une ou deux fois. Et au fond, les rois d'Israël l'appelleront sans arrêt au secours contre les peuples du Nord. Et l'Égypte ne viendra pas. Mais on garde toujours le souvenir que le moment d'esclavage et de salut, c'est l'Égypte. C'est d'Égypte qu'on est sorti, comme une espèce de moment fondateur. Même si, dans la réalité, l'Égypte n'a pas été très dangereuse. Ceux qui ont été vraiment dangereux, c'est les numéros 2 et 3. Numéro 2, les Assyriens. Les Assyriens autour de Ninive. Ninive, en gros, c'est Mossoul. Hein. Ninive, c'est Mossoul actuellement, l'actuel Irak. Un peuple très très envahissant et envahisseur qui s'est très vite imposé sur les peuples le long de la côte, les a grignotés les uns après les autres, a fait payer tribut longtemps à Israël et a fait disparaître une partie d'Israël, le royaume du Nord, on en reparlera, en 721. Disparaître complètement et déporter la population, hein, les Assyriens. Les Assyriens, ils échangeaient les populations. Voilà, c'est comme Staline. C'était déjà la mode. Après eux, les Babyloniens qui ont chassé les Assyriens et qui se sont installés pendant quelques siècles là. Et donc, c'est à l'époque des Babyloniens que la majeure partie, la partie importante, du seul royaume qui demeurait est partie en exil. Donc les Babyloniens, c'est ceux qui ont définitivement détruit Jérusalem. Pas définitivement, pour au moins un siècle, mais enfin qui l'ont bien détruit et bien détruit le pays. Les Babyloniens ont été remplacés par le numéro 4. Le numéro 4, c'est les Perses. Si vous avez un peu de souvenirs d'histoire grecque, les Darius, les Cyrus, les Xerxès, les Perses, Salamine, Marathon, ça vous dit quelque chose? Voilà, ils se sont fait battre par les Grecs. Bon. Mais avant, ils étaient venus s'installer à Babylone et ils avaient permis, autorisé ceux qui le voulaient, tout le monde n'a pas voulu, hein, mais ceux qui le voulaient parmi les exilés d'Israël, juifs, à rentrer chez eux. Donc les Perses, ça, ils sont toujours regardés comme des bons. Autant les Assyriens, les Babyloniens. Les Assyriens, c'est l'ennemi qui vient du nord, c'est le pire. Le chaudron qui bouillonne au nord et qui passe son temps à déborder. Voilà. L'ennemi numéro un, c'est l'Assyrie. La Babylonie, ça n'est pas loin. Les Perses, au contraire, c'est ceux qui vous restaurent. Et même Cyrus, roi des Perses, est appelé par Dieu dans le livre d'Isaïe, mon Messie. Cyrus, mon Messie. Mais oui. Ils vous ramènent au pays. Alors ça ne veut pas dire que les Perses seront spécialement généreux, mais les Perses vous laissent tranquille pourvu que vous payiez à peu près, que vous vous teniez vous-même tranquille. Hélas, les bonnes choses n'ont qu'un temps. Au bout de deux siècles, les Perses sont balayés par le numéro 5, les Macédoniens. Philippe et Alexandre, voilà, l'épopée d'Alexandre. Alors vous avez des séries télévisées, hein, quelque chose d'assez extraordinaire. Alexandre qui en 10 ans, balaye toutes ces régions et va, Égypte comprise, en passant au sud, et va s'installer aux abords de l'Inde quand même, en 10 ans. En détruisant évidemment pas mal de choses, parce qu'on ne fait pas de conquête sans détruire, mais quand même, Alexandre avait un goût pour la civilisation, donc en recréant partout des villes qui s'appellent Alexandrie, il y en a une en Égypte, mais il y en avait au moins une dizaine, et qui partout auront une bibliothèque, un musée, enfin il refait du grec un peu partout. Voilà. Pour le pays, Alexandre, c'est pas gai, parce qu'il a simplement détruit et pas reconstruit grand-chose. Ensuite viendront, un petit temps peut-être de liberté, et le dernier, ce sont les Romains, le numéro 6, qui vont prendre le pays. Jésus de Nazareth est né sous occupation romaine. Ça va ? Donc, je ne rentre pas dans le détail, on va le voir petit à petit, mais voyez, c'est pour vous montrer que ça n'a pas été facile, leur vie. Et que, sans arrêt, il y a un double jeu qui se fait. Le souvenir de l'Égypte où on était esclave, mais dont Dieu nous a fait sortir, même un triple jeu. La peur du pays du Nord, le chaudron qui bouillonne, et qui va nous envahir et nous écraser, la Syrie-Babylone, et au fond, l'idée qu'on a pu revenir grâce aux Perses, on est revenu d'exil, et donc on a vécu un nouvel exode. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça va ? Voilà les grands éléments qu'il faut garder. De ces civilisations, et je vais m'arrêter pour faire une petite pause quand même pour vous laisser souffler, puis je reprendrai. De ces civilisations, on n'a pas seulement les éléments guerriers ou économiques, on a aussi la culture qui vient se répandre. Et ça, c'est très important, parce que c'est des civilisations de grande culture. Il y a des hymnes égyptiens au soleil qui sont repris dans certains psaumes pour l'hymne et au ciel pour l'hymne à Dieu. Il y a des dialogues avec la mort égyptienne qui vont être repris jusque dans le livre de Job. Il y a surtout une énorme littérature en Mésopotamie. Et cette littérature, elle va influencer les auteurs bibliques. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recopier bêtement, hein. Bon, l'assimiler et prendre fermement leur distance. Mais c'est intéressant. Je vous lis quelques éléments et vous entendrez peut-être les échos de la Bible, on en reparlera. Une espèce d'époque, de récit d'origine de l'humanité, un récit de création, il y en a beaucoup, un mythe de création dans un monde peuplé de dieux, avec comme grand dieu le suprême Apsu, comme dieu du ciel Marduk, et comme force mauvaise du chaos et de la mer, parce que la mer fait peur à ces, nom de ces pays mésopotamiens. Les fleuves inondent et la mer peut refluer. Donc la mer fait peur. La mer, c'est les forces du chaos. On raconte comment le monde est né. Alors, je vous lis les quelques phrases qu'on a, qu'on peut tirer de ce poème qu'on a par morceaux, qui s'appelle Enuma Elish, lorsque d'en haut. Ce morceau-là date d'environ 1100 avant Jésus-Christ, mais ça fait un moment. Lorsqu'en haut le ciel n'était pas nommé, qu'en bas la terre ferme n'avait pas reçu de nom. C'est intéressant ces noms, parce que Dieu va parler, hein. Ce fut Apsu l'initial qui les engendra. La causale Tiamat, c'est les forces du chaos, qui les enfanta tous. Lorsque Marduk, le dieu du ciel, eut tué Tiamat, il mit le pied sur la base de Tiamat. De sa masse inexorable, il fracassa le crâne. C'est violent, hein. Calmé, quand ça le calme, il examine son cadavre. Il veut diviser le monstre en deux, faire quelque chose d'ingénieux. Il le fendit en deux comme un poisson au séchage, vous savez, la morue. En disposa une moitié comme ciel en forme de plafond, tendit la peau, installa les gardes et leur donna pour mission de ne pas laisser sortir les eaux. Dans Genèse 1, Dieu va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, mettre une espèce de couvercle de séparation qui va s'appeler le ciel, et en bas, la terre va flotter sur les eaux qui sont maîtrisées et ne peuvent pas l'inonder, en tout cas on espère. Voilà. Donc il va y avoir un écho de ce milieu. Et au lieu de la violence, Dieu va créer par la parole et la douceur. Il y aura le déplacement énorme. Mais le récit ne se fait pas sur rien. Vous voyez, c'est en écho et en réaction contre ces grands récits. Une autre histoire, beaucoup plus ancienne, 17e siècle, et on a des tas de versions dans des langues différentes. Une autre histoire de création de l'humanité. Là encore, il y a plusieurs types de dieux. Il y a des grands dieux et il y a des petits dieux. Et les petits dieux, ils sont chargés de travailler la terre pour nourrir et d'élever des animaux pour nourrir les grands dieux. Ça ne leur plaît pas du tout, parce qu'ils sont un peu esclaves. Un île demanda. Alors, il se révolte. Il se révolte contre les grands dieux et c'est la pagaille. Donc Enlil, qui est un porte-parole, demande « Anouna, grand dieu, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous former ?» Les grands dieux répondirent « Abattez des dieux Allah, c'est les dieux inférieurs, que leur sang produise l'humanité, que la corvée des dieux devienne leur corvée. » Voilà. L'humanité naît du sang des dieux mélangé un peu de boue, et surtout, les humains vont servir à faire le travail. Pour à perpétuité, faire bien aller la rigole, faire foisonner les plantes, fixer la frontière, entasser des tas de grains, faire fructifier les champs, verser de l'eau fraîche en libation, voilà. Les humains vont travailler pour nous offrir des sacrifices et nous nourrir. Qu'on abatte un dieu, qu'à sa chair et à son sang on mêle de l'argile, que du dieu même et de l'homme soient mêlés ensemble dans l'argile. Et cette idée que dans l'humanité, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de divin, le sang d'un dieu abattu, il y a quelque chose de terreux, de boueux, et qu'on va fabriquer cette humanité, le dieu potier, il dit aussi dans la Bible. Mais le dieu de la Bible, il va installer l'homme dans un jardin et le lui donner. Là, c'est allez les gars au travail. Vous êtes des esclaves et maintenant... On pourrait en raconter comme ça des histoires sans fin. Il y a l'histoire de Gilgamesh, dont vous avez peut-être entendu parler. Encore plus anciens, les plus anciens textes datent de 2400 avant Jésus-Christ par morceaux. Et on a presque toute l'épopée. C'est un roman d'initiation. Un jeune homme qui part pour apprendre à vivre. Alors il rencontre des animaux, il rencontre la femme, donc il rencontre l'amour, il rencontre un ami, un kidou, il marche avec cet ami, bonjour. Il y a un déluge, évidemment, il y a un déluge, il échappe au déluge. Et puis, à la fin, il part en quête de quoi ? Ben, de la plante d'immortalité. Tout homme veut être immortel. Donc notre Gilgamesh va partir en quête de la plante d'immortalité et il va la trouver en plus. Alors, il y a des épreuves, il y a tout un tas d'histoires. Il la trouve et il l'accueille. Et il va la ramener. Seulement tout ça, c'était fatigant. Donc au bord d'une rivière paisible, il se couche, il s'endort. Pour se reposer, il s'endort. Et voilà qu'il y a un serpent qui sort de la terre, qui se glisse près de lui et qui mange la plante d'immortalité. Alors, le serpent, il mue chaque année. Donc, il représente quelque chose d'une reproduction, sinon d'une immortalité, du moins une possibilité de recommencer, de rajeunir toujours un phénix. Mais le brave Gilgamesh, il a perdu. Il a perdu la plante d'immortalité. La Bible s'en souviendra. Qu'est-ce qui, au fond, détruit l'harmonie entre l'idéal futur plutôt que passé entre les humains et Dieu, c'est le serpent. Cette espèce de serpent nu et rusé, que même pas un Satan, c'est quand même une bête qui rentre par terre. Et voilà, on se souvient de l'épopée de Gilgamesh, mais on en change évidemment complètement le sens. Voilà. Si vous me donnez le temps, si vous avez un peu de courage, je vais quand même finir cette affaire. J'ai encore deux points à vous. Ça va ? Vous pouvez ?
Oui.
Deux points. Le problème, au niveau de, parce que j'essaye de rassembler tout ce qui touche à la terre. Donc la terre comme lieu de bagarre, d'oppression, la terre comme lieu de culture partagée, la terre en tant qu'elle a été au fond le lieu de construction, parce qu'Israël a été un peuple qui a construit le temple, des piscines, un aqueduc que le roi Ézéchias en 700 a construit pour faire venir l'eau de la campagne à Jérusalem. Enfin, il y a des tas de choses que l'archéologie retrouve, et même des sanctuaires anciens, on en retrouve. Alors, la Bible pourrait s'appuyer sur l'archéologie et doit évidemment s'appuyer et se confronter à l'archéologie. Il y a eu à ce sujet plusieurs bagarres, querelles, je vous en passe, ça fait quand même au moins 300 ans que les gens se battent autour de la Bible. Ça va. Et en 2000... Je crois que la traduction française est de 2002 ou de 2004. Il y a eu un livre qui a été assez célèbre, traduit en français sous le nom de la Bible dévoilée, mais ce n'est pas bon. En anglais, c'est The Bible Unearthed. C'est la Bible arrachée à la terre. C'est la Bible et l'archéologie, en tant que l'archéologie nous en parle. La Bible déterrée, on va dire la Bible déterrée, ça serait mieux. Des Israéliens, Finkelstein et Silbermann, qui sont des gens qui ont voulu montrer que, au fond, la Bible était un monument à la plus grande gloire du roi Josias au 6e siècle, 7e siècle, fin du 7e siècle, un très grand roi, on en reparlera, et que tout un tas de récit biblique ne correspondait absolument pas à la réalité archéologique. Alors, deux types de gens auraient pu se lever pour dire comment. D'abord les archéologues, parce qu'il y a des archéologues qui aussitôt sont rentrés en conflit, bataille d'archéologues pour dire non, c'est pas tout à fait ça. Deuxièmement, un certain nombre de biblistes qui auraient pu dire mais enfin, vous nous enlevez notre Bible. Or, les biblistes, quand on leur a appris que tout était largement reconstruit, que effectivement il n'y avait pas eu de conquête du pays avec Jéricho conquistador qui s'avançait de ville en ville pour reprendre le pays, que tout ça c'était une reconstruction, les biblistes ont simplement dit mais on le savait déjà, mais ça fait longtemps qu'on sait ça, mais évidemment toute histoire est toujours une reconstruction, surtout ancienne, à la plus grande gloire de celui qui est le commanditaire. Et la stèle de Mécha, qui, ancienne, qui célèbre la victoire d'un roi de Moab, nous apprend des choses sur les peuples qu'il a battus, mais il ne nous apprend pas la vérité. Évidemment qu'il a élargi, agrandi, évidemment. Les stèles assyriennes qui vont rencontrer les récits bibliques vont raconter la même histoire d'un autre point de vue. Évidemment. Et donc les biblistes vont dire, mais vous nous dites que Jéricho n'a jamais été prise, parce que Jéricho à cette époque c'était une ruine, mais lisez le récit biblique, vous verrez que personne n'a pris Jéricho par la force. Ils ont fait une grande procession liturgique, ils ont tourné en rond autour de Jéricho en chantant des psaumes, et à la fin Jéricho est tombé. Bon, d'accord. En réalité, on savait bien que Jéricho était en ruine. D'ailleurs la ville qu'ils ont pris à côté, elle s'appelle Haï, qui veut dire la ruine. Ils se sont installés paisiblement, ou presque, dans un pays qui lui-même était déjà ruiné depuis un moment. Donc en fait, oui, l'archéologie, partiellement, elle dément pas toujours la Bible, hein, mais partiellement, elle vient démentir de façon assez forte, surtout pour les récits les plus anciens. Hein. Les récits de la Bible, on verra avec Moïse aussi, mais en même temps, le bibliste qui regarde ça d'un œil un petit peu averti et critique, il dit, mais c'est évident tout ça. Ne nous faites pas des histoires. La Bible n'est pas un document historique. Ce sont des traces du passé relues, réamplifiées, rassemblées pour comprendre qui on est. Bah, évidemment. Et nous, quand on raconte Vercingétorix, allez visiter le musée Vercingétorix sur l'autoroute, près d'Alésia, sur l'autoroute du Sud, sur la 6. La partie la plus intéressante du musée, c'est la fin. La façon dont la figure de Vercingétorix, pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, en 1940-1945, a été utilisée des deux côtés. Par la résistance, évidemment, l'Auvergnat qui résiste, mais aussi du côté de Vichy, pour dire c'était un homme intelligent qui se rendait compte qu'une civilisation plus forte arrivait, qu'il fallait l'accueillir. Ah, ça laisse un peu pantois. Et on a les articles de journaux. Voilà comment on raconte l'histoire. On raconte l'histoire pour servir sa cause. La Bible fait ça, évidemment. Mais les auteurs grecs sont parfois un peu plus honnêtes. Pas toujours. Thucydide n'est pas vraiment honnête. Et quand même, c'est à la plus grande gloire de la stratégie de Périclès. Voilà, donc, c'est la bibliothèque d'un peuple, ce qui va m'amener à l'heure suivante, quand on sera reposé. Je veux quand même dire aussi qu'à propos de la terre, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de l'Exode, la sortie d'Égypte, comme souvenir fondateur. On a été esclaves, Dieu nous a tirés de la servitude et nous a menés à travers le désert vers notre terre. Et le moment où ce souvenir fondateur va être largement repris, orchestré, relu, qui est le retour d'exil, où le prophète Isaïe, dans sa deuxième partie, le deuxième Isaïe, dira « C'est un nouvel exode, à nouveau, Dieu nous arrache, même si c'est avec l'aide de Cyrus, mais Dieu nous arrache à la servitude et nous ramène sur notre terre. » C'est à ce moment-là qu'on va amplifier les récits de l'exode. Nous donne une espèce de binôme, exode-exil, qui, me semble-t-il, permettent de, au fond, à la fois penser non seulement l'histoire d'Israël entre l'exil et l'exode, hein, on est toujours en exil ailleurs et on sort en marche vers une terre promise, qu'on n'atteint pas d'ailleurs, Moïse n'y entre pas, mais on marche vers. Et je pense que c'est aussi des figures de la condition humaine. On a longtemps chanté que nous, chrétiens, nous étions exules filii Eve, des fils d'Ève en exil sur cette terre. Mais pas du tout, on n'est pas en exil, on est en exode, vers la terre meilleure, vers la terre promise, vers la terre nouvelle. Voilà, ça permet de, il me semble, c'est peut-être un jeu, mais c'est un jeu qui quand même va loin, de penser un peu autrement les situations difficiles d'enfermement, etc. On n'est pas en exil, on est en sortie vers. Je m'arrête là, on se prend un petit quart d'heure de pause. Alors, je ne vous ai pas laissé la place des questions après la pause. On commencera par ça. Rappelez-le-moi. Deuxième partie.